Bienvenue, je suis Dave et vous écoutez XCast. Le podcast subjectif et subversif, 100% Xbox. Les graphismes léchés de Bramble m'avaient fait forte impression lors du Summer Game Fest 2021, mais son portage PC only m'avait fait oublier ce jeu, jusqu'à l'annonce récente de son arrivée sur console et aussi sur le Game Pass. Par curiosité et aussi histoire de me remettre un petit peu le truc en tête, j'ai redécouvert le jeu via de nouvelles séquences sur le net. Les environnements boisés et flamboyants qui traînaient dans mon esprit avaient soudainement été éclipsés par des scènes violentes, sanglantes, et la vision de ce monstre semblable à Sadako, la petite fille tombée dans le puits de The Ring, l'œuvre cinématographique de Hideo Nakata, a soudainement poussé le curseur de ma curiosité au maximum. Je n'étais pas non plus convaincu par les jumpscares de Close to the Sun et j'avais vraiment envie d'une petite dose horrifique en mode promenade et Bramble semblait correspondre à mes attentes. Notre personnage, Olé, est un petit garçon, et comme beaucoup d'enfants, la nuit est le moment des angoisses. On retient sa respiration, on ne dit plus un mot, chaque son fait basculer notre imagination dans les recoins les plus obscurs. C'est juste la bête sous ton lit, dans tes chiottes et dans ta tête. Pardon. Dans ces moments de terreur, Olé a toujours pu compter sur sa grande sœur Lilmore pour le rassurer. Mais ce soir-là, Lilmore est absente. Persuadé qu'elle est en danger, Olé prend son courage à deux mains et décide donc de sortir de la maison par la fenêtre. Dehors, il découvre, en sautant dans un tronc d'arbre, un monde magnifique et enchanteur. Il se voit rapetissir tel Niels Holgersson, le côté sale gosse en moins, pour arpenter et s'émerveiller de la beauté des bois qui jouxte la maison. Il en sera de même pour les gamers, difficile de ne pas rester insensible au travail visuel des développeurs. Chaque feuille, tige, pétale, brindille, sable, pierre, poussière a sa taille, sa forme, son épaisseur et sa transparence. Chaque élément est posé de façon quasi chirurgicale pour que l'immersion soit la plus complète possible. Il en va de même pour la qualité des éclairages qui subliment les textures et offrent un jeu d'ombre et de lumière exceptionnel. Ce moment où le troll nous cherche avec sa lanterne dans les hautes herbes révélera tout le soin apporté par les auteurs sur la direction artistique. Les développeurs ont pris un malin plaisir à jouer avec nos émotions. On passe parfois de façon extrêmement brutale, d'un environnement boisé qui émerveille et qui chatouille, à une ambiance excessivement dark, grasse et saignante, un truc à la Plague Tales, pour revenir ensuite faire des galipettes et chanter Kumbaya près d'un lac. Car oui, le jeu propose aussi des instants terrifiants, durs et violents. Vous traverserez un bac rempli d'intestins de sangliers encore chauds dans la cuisine d'un troll boucher. Vous pourrez vous faire dévorer façon l'attaque des titans par des créatures gigantesques, grises et poisseuses. Vous faire découper par des pièges à loups ou encore vous faire arracher la carotide après avoir lutté dans une mare de boue pour tenter d'échapper aux victimes de la peste noire. Les développeurs ont également apporté un soin particulier à la gestion du son. On traverse parfois des zones dépourvues de toute musique, des hurlements, rires diaboliques et des pleurs d'enfants se font parfois entendre. Sans être binaural, les effets stéréo et de profondeur collent et renforcent un sentiment parfois malaisant et quand la musique s'en mêle, l'ambiance ciselante et macabre atteint des sommets, Encore une fois, certaines sonorités choisies dans l'OST sont extrêmement proches de ce que l'on peut trouver dans Plague Tales. Il est intéressant de noter que la structure narrative du jeu est en partie liée aux environnements, justifiant ainsi une trame oscillant entre un folklore suédois et une réalité qui touche le pays du XIVe siècle, la Grande Peste Noire. Alors, je n'ai rien inventé, hein, c'est le contexte apporté par le studio. On découvre aussi des livres pour enfants semblables à des contes, mais j'ai voulu en savoir plus. J'ai cherché des contes suédois en fonction des éléments du jeu. Alors les trolls dévoreurs d'enfants dans les contes des frères Grimm, ok, ça j'ai trouvé. J'ai trouvé aussi celui qui parle de la créature du marais qui attire les hommes et les femmes avec un violon maudit. Alors les histoires de sorcières aussi, mais rien qui justifie des versions aussi violentes que celles proposées ici. J'ai cherché aussi des éléments dans l'histoire de la Suède, notamment sur la chasse aux sorcières, qui a bien eu lieu, mais 2 siècles plus tard. Et alors, plus le coup de la frangine qui se fait la malle, j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à recoller les morceaux. Bon, les réponses arriveront certainement plus tard. Le gameplay est à coup sûr ce qui divisera les gamers. Il y a pour moi un réel parti pris. Je m'explique. Les efforts sont concentrés sur le visuel. Les instants austères au possible ne peuvent accueillir qu'un public suffisamment mûr pour être absorbé. Et pourtant, le jeu ne vous mettra jamais en difficulté. Effectivement, les déplacements sont ultra limités, tant dans l'espace qu'en termes de possibilités. De plus, le peu de puzzles ou de casse-tête proposés ne demande aucun effort. Attention, les idées sont là. Les boss sont designés en étapes, des potions sont à combiner pour ouvrir des portes magiques, on fait tomber des poutres pour former un passage, non, tout y est. Mais pour ma part, c'en est presque dommage de proposer un game design aussi light. Pour éliminer les boss, on doit viser une partie du corps. À cet instant, le temps est légèrement ralenti pour viser la cible. Et on peut tout à fait viser un petit peu à côté, ça marche aussi. Les potions sont identifiées par des formes simples comme des carrés ou des triangles. Une fois prises, le logo s'affiche pour se rappeler de ce qui a été pris et les portes se déverrouillent avec 3 symboles. Guère plus. Pas besoin de les tourner ou de les placer plus ou moins en dessus d'une autre, il n'y a même pas d'ordre. Non, c'est juste une superposition. On est vraiment sur de la base, une simplicité enfantine. La seule explication que j'ai trouvée à ce constat est une cohérence avec le personnage qui, je le rappelle, est un enfant et donc qui fait des choses simples. Capillotractage, mode engage. Mais la fin du jeu éclaircit sur le lien entre les contes et la disparition de la sœur de Olé et m'offre ainsi une toute nouvelle perspective.
Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor. Du nalkas ljuva sommar då gräs och gröda gror.
Brumble est une volonté de vouloir présenter une période noire et méconnue de la Suède à travers le prisme de l'apprentissage social d'un enfant. C'est ce moment où l'on quitte l'enveloppe de l'enfance vers celle des responsabilités d'adulte. Et si le jeu ne brille pas par un gameplay riche, il est en revanche éclipsé par une direction artistique extrêmement bien soignée et grâce à une histoire poignante et se paye même le luxe d'un apport culturel. Pour ma part, et si vous êtes en quête d'un jeu narratif à l'ambiance envoûtante de 7-8 heures avec zéro prise de tête, Brumble the Mountain King est fait pour vous. C'est le jeu idéal à caser entre deux Souls-like pour respirer un petit peu. Dans le jeu vidéo aussi, c'est important de manger équilibré. Il est aussi important de noter qu'il ne s'agit que du second jeu de Dim Frost Studio, créé en 2017 par 4 étudiants qui rêvaient de faire du jeu vidéo. Remarqué et racheté par le groupe Zordix, Dim Frost a bénéficié du soutien financier du groupe pour grandir et poursuivre le développement de Brumble.
Dans son vie, nos nerfs.
À très bientôt pour un prochain podcast. Ciao.